Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas.
Pas de tricheur dans l'équipe, tout le monde se donne à fond et surtout on est bien quadrillé par le coach aussi.
Si j'aurais marqué mes deux pénaux aussi, je serais le meilleur buteur déjà. Avec Dessy, comme je l'ai dit l'autre fois, je serais au Real.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Nicolas Jamal.
Bonsoir à toutes et à tous. L'After est là comme tous les soirs jusqu'à minuit à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News. L'After, la seule émission en direct en France. 7 jours sur 7, casting du soir. Bonsoir Daniel Riolo.
Bonsoir les amis. Je prends une photo du nouveau décor.
Salut Kevin Diaz.
Salut,
bonsoir à tous. Et messieurs, on inaugure ce soir un nouveau décor, oh là là, magnifique.
Toi, je te prends en photo.
Non mais les gars, la classe américaine là, ouais. Late show américaine, c'est Jimmy Fallon ou pour les plus vieux, David Letterman. C'est l'after show.
Ah, je sais quoi.
L'after night show.
Je sais pas faire les selfies en fait, je sens pas.
Arrête Daniel, t'en mets tous les jours sur tes réseaux.
Appuie sur le bouton sur le
côté. Voilà, vous le voyez sur RMC Sport News à la télévision, bien sûr. Un nouveau décor 2020 pour l'after, ambiance. Alors, on cherchait la ville. Je pense que c'est un panaché de plein de capitales mondiales, tu vois, du New York, du Los Angeles, peut-être du. Il y a des collines, il y a un immense parc derrière Daniel, il y a un magnifique stade de foot et une lune en ballon de football.
Je crois que j'ai raté les photos.
En animation. Moi, je me dis qu'on a sûrement mis le salaire de Ludovic Obraniak dans le décor, tu vois. C'est possible, hein. Ludo, si tu nous écoutes, bon vent à toi. Ludo Obraniak qui a quitté la famille Lafter.
Moi, j'aurais préféré garder l'ancien décor et garder Ludo.
Mais évidemment, on est tous d'accord.
C'est
s'il avait envie de jouer en Ligue 2, qu'il rejoint Ligue 2.
C'est vrai.
Hein,
c'est vrai, c'est
il a connu la Ligue 2, il a aimé la Ligue 2, il y retourne.
En même temps, quand t'as que, ouais, il aura fréquenté la Ligue des Champions un
petit peu
et voilà, maintenant il redescend. Bon, à lui, même dans les divisions inférieures.
C'est quoi,
on peut faire des belles carrières.
Mieux vaut être leader en division inférieure que. Tu vois, je parle d'effectif, quoi.
Ouais.
Leader d'un groupe en division inférieure que deuxième en Ligue des Champions. Non, allez, on blague, évidemment.
Ouais.
Bon vent à toi, Ludo. Amuse-toi bien. Et tu reviendras un jour, on le sait, évidemment. Messieurs, ce soir, on va faire un rapide débrief quand même de Bordeaux-Le Mans. Appelez-nous supporters bordelais au 32-16. Victoire des Bordelais 2-0. Daniel, il n'arrête pas là, avec son téléphone.
C'est incapable de faire des photos.
Robert Moreno.
Profondément.
Peut-il faire mieux que Jardim à Monaco avec sa colonie de joueurs, hein, de 40 joueurs? Il a exposé son plan aujourd'hui, sa philosophie de jeu également pour une vraie première conférence de presse. Ce sera avec Jordan Olivier, notre correspondant sur place qui assistait à cette conférence de presse. Et puis tiens, deux drôles de dames pour débuter 2020 en télé dans l'after. Fred Hermel pour l'actu en Espagne et Simon Monet Rovera pour l'Italie qui ne parle que de Zlatan et puis quelques infos mercato à venir bien sûr. Le 32-16 hashtag RMC Live et bien sûr l'application Direct Studio. Messieurs, Bordeaux premier qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France pour la première fois depuis 2 ans. Bordeaux passé 32e, victoire 2-0 face au Mans, brillant sur penalty en première période et Bazic en deuxième pour la qualification des Bordelais face au 17e de Ligue 2. Appelez-nous supporter Bordelais. Kevin, t'en retiens quoi? Rien. Un peu, beaucoup.
Un peu quand même. C'est jamais
fin de série hein, pour les Bordelais. Hein.
Ouais, puis c'est jamais facile hein, lorsque vous êtes footballeur professionnel de reprendre, ou amateur d'ailleurs, mais de reprendre avec cette Coupe de France tout début janvier. Alors là, il n'y avait pas des températures négatives, hein, mais en tout cas, j'ai trouvé les Bordelais appliqués, sérieux. Un match cohérent de l'équipe de Souza. Ils ont gagné, c'était assez mérité. Bon, ils marquent le deuxième but à la fin. Assez flatteur le 2-0 parce que les Manceaux ont quand même fait bonne figure, qui sont un peu en difficulté en championnat, même si ça va un peu mieux ces dernières semaines. En tout cas, les dernières semaines avant la trêve. Et voilà, j'ai trouvé un match correct. Franchement, un match correct.
Daniel, t'as regardé le match ou pas?
Puisqu'il paraît que c'est toujours difficile de reprendre début janvier. Moi, je me suis fait à cette idée... qui est véhiculé depuis des années maintenant. Donc, je ne m'attends jamais à rien dans ce premier week-end, si ce n'est aux petites équipes qui réalisent les surprises, parce que c'est toujours un petit peu excitant, quoi. C'est le moment où le petit brille face au gros. C'est un peu traditionnel, même s'il y en a de moins en moins, quand même, année après année. Bref, ça sera peut-être pour ce week-end, parce que ce soir, il n'y avait qu'un seul match, il n'y a pas eu de surprise. Bon, on s'est fait chier, mais bon, c'est toujours comme ça, puisque c'est toujours difficile de reprendre, comme tu as dit, Kevin. Donc, j'ai vu une équipe du Mans qui n'a rien tenté, en fait. Et sur la seconde période, je ne sais même pas s'ils arrivent à rentrer dans la surface. En tout cas, ils ont 0 aux cases. C'est un brin mieux en première période. Bordeaux s'est contenté de son péno. J'oublie même le deuxième but parce qu'il arrive dans les arrêts de jeu, il ne sert plus à rien. Voilà, stade vide.
Presque.
Il faudrait peut-être en parler un petit peu aussi parce que ça commence à devenir une vraie habitude.
Est-ce que Daniel, c'est dû... là, t'es le 3 janvier, match de Coupe de France contre une Ligue 2.
Mais non, mais
tu n'attends pas à avoir 30 000 personnes à Bordeaux ce soir.
Non, mais je ne m'attendais pas à avoir 30 000, mais de là à avoir 5 000, ou de là à avoir surtout la continuité d'un problème qui est de plus en plus récurrent à Bordeaux, à savoir ouais. que de plus en plus de gens se détournent du foot. Est-ce que c'est dû à l'équipe ? Est-ce que c'est dû à la direction en place qui pourtant a mis en avant une volonté de remplir le stade, qui en a fait même un argument marketing en développant des idées absolument fumeuses pour remplir le stade. Visiblement, ça marche pas du tout, quoi. Donc la nouvelle direction déjà va commencer à se poser des questions là-dessus. Ouais. Je suis désolé, je parle d'autres problèmes parce que le match, ça sert à rien en parler. Enfin, à moins que vous ayez beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais Bordeaux se qualifie ce soir, voilà, on va retenir ça. Affluence minimale, match très moyen, qualification, ok, très bien, au revoir, merci quoi.
Tiens, puisque ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu Le Mans à la télévision, Le Mans de retour en Ligue 2.
Contre le PSG là.
Ah oui, c'est vrai, t'as raison.
Coupe de la Ligue,
ah oui, ils sont fait fêcher, là. On a que Mickaël, supporter du Mans. C'est pas tous les soirs qu'on a qu'un supporter manceau dans l'after. Salut Mickaël et bienvenue. Salut.
Bonjour Mickaël. Messieurs et meilleurs vœux à vous.
Et bonne année 2020, t'as raison.
La bonne année, toi aussi, nerveux. Supporter du Mans, même de la grande époque ou récent?
Ah non, non, supporter de la grande époque.
À la grande époque, je parle de la fin des années 2000, hein, il y a une dizaine d'années.
L'époque Romaric, Gervinho,
des vedettes.
Tullio de Mello.
Ouais, c'est ça.
Tullio de Mello et
Rudy Garcia sur le banc.
Rudy Garcia sur le banc. Drogba.
La meilleure saison.
Et même quand ils avaient pris.
Drogba, t'as raison.
Quand ils avaient pris l'imitation José Mourinho, là. C'est à l'époque où il y avait beaucoup d'imitations.
José Mourinho. Il y en a encore, des imitations José Mourinho.
Canada Dry Mourinho, il y en avait pas mal à une époque. Mais moins époque Errol Goulon, alors, pour toi.
Ah si, si, j'avais connu Errol Goulon, si, si, toi aussi.
Non, mais c'est moins fringant, à ce moment-là, c'est moins brillant, Le Mans, avec Errol Goulon.
Ah bah oui.
Puis Yoann Pelé également, encore en activité.
Et oui, l'Albatros, oui.
L'Albatros, hein.
Peut-être prolongé.
Ouh, j'avais complètement oublié ce
nom. Yoann Pelé, gardien. Bah non, tu l'as revu en fin d'année 2019 sur penalty, bien sûr. Il a déployé ses ailes.
Ah mais j'avais oublié le surnom.
Un ancien coéquipier aussi, Mickaël, je sais pas si tu te rappelles, je pense, de Guillaume Loriot.
Ouais. Hey, Guillaume Loriot, hey, c'est franchement un ami.
Très beau joueur.
Et j'ai une bonne collection de maillots de sa part, donc en plus, c'est un bon ami.
Ouais. Daniel Cousin aussi, non, c'est ça, ouais.
Ouais, ça c'est Daniel Cousin, tous les mecs du monde à la fin de
l'année. Ah, mais la Ligue 2, quand même.
J'ai eu son autographe.
À qui ? De qui ?
De Daniel Cousin et Fabrice Pancrate.
T'as eu son autographe ?
Contre le PSG.
Ah. C'est très rare l'autographe de Daniel Cousin, je pense, en France. Non, mais ça coûte cher, tu sais, Mickaël. Je me moque pas de toi. Hein. Il était assez avare, l'autographe. Bon, Mickaël, t'as pensé quoi de ton équipe ce soir face à Bordeaux?
Bah, le plus important, c'était un match, au moins un match de préparation. Parce que c'était pas facile de trouver un match important. Donc, le plus important, c'est le maintien. On a pu faire jouer les joueurs.
Ah donc en fait, tout le monde s'en fout de la Coupe de France. Bordeaux, c'est juste un match de reprise, on s'en fout. Le Mans, c'est éviter le maintien, donc c'est un match d'entraînement.
Non,
donc
quoi, bah, pas éviter le maintien.
Prenez-nous les mecs, on n'en parle pas si c'est un match d'entraînement alors.
Non mais, on a pu avoir un match autre qu'un match de préparation. Ah ouais. On a pu faire une revue d'effectifs.
Ah mais c'est sûr que si les supporters ne sont pas ambitieux, les joueurs ne vont pas l'être non plus. Hein. Si les matchs, vous ne voulez pas les gagner, ni les supporters, ni les joueurs, on s'en fout. C'est, bah, ça,
c'est
le...
pas ce qu'il a dit, Daniel.
Mais si, c'est ça. Non, mais en Angleterre, tu n'entendrais jamais ça. Tu n'entendrais pas ça. Tu n'entendrais pas un supporter d'une petite équipe dire au moment du match de coupe, qui est en plus un événement traditionnel, et normalement la France est l'autre pays de la Coupe nationale, dire mais je t'en veux pas à toi perso, hein, je dis ça comme ça, mais en fait les joueurs s'en foutent, les supporters s'en foutent, bah tout le monde s'en fout, et ça fait 5000 personnes ce soir à Bordeaux, notre football il en est là, quoi. Oui. Voilà,
mais nous on peut dire qu'on a été gâté parce que Le Mans,
bah, si t'as été gâté,
il y a cinq ans on était en DH, là en peu de temps on a joué Nice en Coupe de la Ligue, on les a tapés, on a joué le PSG, on a pris que 4-1, et là on joue Bordeaux, encore une équipe de Ligue 1. Et franchement, je trouve que en 5 ans, on a pas mal progressé. On était au fond du trou.
Il y a toujours une façon de relativiser.
Et là,
Mickaël, attends, Mickaël, t'avais peur de prendre une fessée. T'avais peur de prendre une fessée ce soir face à Bordeaux, qui est plus un cadre de Ligue 1. 2-0, ça te va, quoi? Ce que tu nous dis.
Ben, je trouve que 2-0, c'est quand même flatteur parce que on a quand même.
Mickaël, si tu me permets, je vais. Mickaël, si tu me permets, je vais aller dans ton sens. Parce que je vois que Nico et Daniel sont pas trop d'accord.
Non, mais... pas du tout. Attends, moi, je suis prêt à ouvrir le champagne, moi, pour fêter
Daniel,
le bon
Daniel,
résultat du Mans.
Commence pas. personne n'a parlé de champagne, mais tu sais, il y a un club qu'on connaît bien. Il y a un club qu'on connaît bien, l'After, c'est Strasbourg, qui aujourd'hui est revenu au plus haut niveau. Mais Le Mans, ils ont exactement la même trajectoire. Ils sont redescendus en DH.
Est-ce qu'il y a toujours une façon de relativiser la vie?
Ils étaient il y a pas longtemps, Daniel. C'est leur première année professionnelle depuis peut-être 4 ou 5 ans. Ils reviennent de très loin. Et donc recevoir le PSG, c'était déjà une belle fête. Même s'ils ont perdu 4-1, c'était déjà une belle fête. Et là aujourd'hui, se faire éliminer après une fin d'année
et un début de saison, c'était la fête.
Attends les gars,
on parlait de la belle fête contre le PSG là.
On voit des clubs de 4e division nationale ou 5e division qui tapent des Ligue 1 tous les ans quasiment en Coupe de France. Tu veux pas te contenter d'une défaite comme ça 2-0 face à une Ligue 1 moyenne actuellement.
Il a pas dit qu'il se contente.
Tu peux espérer plus
comme
dès le début.
Années récentes étaient
comment se construisent les espoirs en Coupe de France.
Il a pas dit qu'il s'en contentait, Nico, il a dit que pour un supporter du Mans, savoir d'où ils viennent.
Il a dit c'est un match d'entraînement.
C'est pas un match d'entraînement, il a dit que c'était un bon match de préparation après avoir bien fini la saison.
Ah, match de préparation, c'est pas l'entraînement. C'est
préparer la deuxième partie de saison.
Pardonne-moi cette confusion, effectivement, ça n'est pas pareil, c'est vrai.
Eh oui, c'est pas un match d'entraînement. Pour moi, ça n'existe pas, les matchs amicaux. Encore moins quand c'est un match officiel.
Vas-y, Mickaël.
Ça va être le match le plus important de la semaine, au CR. Parce qu'on est quand même, après 9 journées, avec 3 points. Et là, on est quand même 15e du championnat.
Non mais je vois ce que tu veux dire. Moi je suis pas d'accord avec Daniel. J'ai vu une équipe du Mans qui a été cohérente en tout cas dans la première heure de jeu.
Non mais
il a quand même tenu tête à une équipe de Ligue 1.
Non mais c'est la Coupe de France.
C'est la Coupe de France, mais eux ils sont.
Mais vas-y, envoie quoi.
Non, ils peuvent pas.
Attends,
envoyer
un exploit, demande plus à tes joueurs réellement.
Nico, la Coupe de France, ils savent qu'ils vont pas la gagner. Par contre, ils ont un championnat où ils doivent se maintenir absolument, parce que ça peut jouer la survie d'un club qui vient de remonter en Ligue 2. Donc eux, ils sont dans une phase de préparation où ils sont là pour faire le meilleur match possible. S'ils avaient pu se qualifier, bien sûr qu'ils l'auraient fait. Ils sont quand même tombés face à une équipe qui était meilleure qu'eux, qui a pris ce match au sérieux, on l'a déjà dit. Et Le Mans aujourd'hui qui est mené 1-0 à la 90e face à une équipe de Ligue 1 correcte, avec un bon entraîneur, je suis désolé, pour eux, c'est pas une mauvaise soirée.
Ah non, c'est plutôt une bonne soirée, oui. En plus, on a un super ailier gauche, Stéphane Diarra, qu'on a récupéré en prêt il y a 2 ans de Rennes. On l'a eu l'année dernière, il a fait une super saison. Cette année, il est encore magique. Franchement, contre Nice, c'est lui qui nous fait des débordements. Et franchement, je sais pas si l'année prochaine, on l'aura encore. Mais franchement, je sais qu'il est supervisé à chaque match par des clubs anglais, Crystal Palace et Wolverhampton. Mais franchement, je dis que c'est quand même une pépite. C'est comme le petit Youssef Maziz. Franchement, prêté par Metz, c'est quand même des bons joueurs. Moi, je dis, il y a quand même des.
Et tu seras content s'ils partent, hein, Mickaël ?
Qui pourraient venir nous prendre nos joueurs.
Merci, Mickaël, d'avoir appelé au 32-16.
Merci, Mickaël.
Je vous en prie.
Excellent. Tu reviens quand tu veux dans l'after, évidemment.
Ça sera avec plaisir.
Bah, l'année prochaine, merci du coup, maintenant, puisque attendons la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France, hein, pour retrouver Le Mans, en tout cas. Tiens, et puis on conclut avec Jérémy au 32-16, supporter bordelais. Salut, Jérémy.
Salut tout le monde.
Bon, je sais pas si ce match t'a rassuré, parce que Bordeaux était un peu en décrépitude en fin d'année 2019. Bon, c'est une reprise, quoi. Pas plus.
Ouais, en fait, c'est surtout ça. C'était surtout qu'on a fait un mois de décembre catastrophique. Et en fait, ce qu'il fallait surtout aujourd'hui, c'était la victoire. C'est un match de coupe. C'est un match qui est jamais évident. Un match au mois de janvier, il y a 5000 personnes, il n'y a pas grand monde. Moi, j'étais au stade. Honnêtement, c'est triste.
Ah, t'es allé au stade, toi?
Ouais, bah ouais, quand même.
Non, mais
ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait surtout, c'était la victoire. Après, le jeu, il y avait pas, c'était pas encore extraordinaire, mais voilà, il fallait surtout stopper l'hémorragie. On repart du bon pied. On a Lyon qui arrive à la maison samedi, et il fallait vraiment se remettre les idées en place. C'est surtout ça, moi, que je note. Après la victoire, de toute façon, c'est un match de Coupe de France. Il fallait cette victoire. C'est la seule chose qu'on attendait, nous, supporters. On attendait juste ça, et surtout avoir une deuxième partie de saison qui soit un peu plus cohérente après voilà. Mais aujourd'hui la seule chose qui comptait, c'était la victoire, le jeu.
Et Jérémy,
oui,
comme t'étais au stade,
oui,
comment t'expliques toi la faible affluence? C'est juste l'affiche ou on peut quand même parler de tendances très récurrentes dernières semaines?
Il y a des soucis, et je pense qu'on en a parlé, vous en avez parlé à l'after avec le board aujourd'hui à Bordeaux, qui fait que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des places rien que dans le virage sud. Je le vois moi-même, parce que aujourd'hui, moi, j'ai voulu acheter des places. Les places étaient à 5 €. Il faut savoir que les abonnés c'était gratuit pour les abonnés, et les places étaient à 5 € pour dans tout le stade. Et quand on a voulu, quand j'ai voulu acheter mes places sur le site internet, au niveau de la tribune populaire avec les ultras, j'ai pas pu parce que il y avait apparemment le virage était plein. Bon, bah, non, le virage était pas plein. Donc il y a ce souci là.
C'est quand même étonnant après, pour une direction qui arrête pas de dire que le chantier principal c'est de ramener du monde au stade.
Ouais, mais il faut faire attention à ce que vous dites la direction. C'est surtout ça, c'est aujourd'hui, il faut faire vraiment attention.
Ouais, mais enfin, je ne sais pas si tu as noté, mais je le disais sur un ton ironique.
Ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des ultras, il y a Florian Brunet, il y a pas mal d'ultras qui dénoncent ça. Et ce combat-là, c'est un combat qui va être long et qui est compliqué parce qu'aujourd'hui, nous, on se bat contre des personnes qui sont invisibles. On se bat contre un projet qui est invisible. Et aujourd'hui, comment fédérer toute une région quand on a un club qui n'est pas capable de fédérer ses propres ultras.
Jérémy, c'est pas nouveau, hein. C'est pas avec l'arrivée de King Street là que c'est. Ça fait quand même quelques années que le stade est aux deux tiers vide à Bordeaux.
Bordeaux, traditionnellement, ça.
Il faut que ça gagne à Bordeaux, je le connais.
Ça plaint quand ça gagne. Mais là, on est sur une tendance qui va un petit peu plus loin que l'habitude bordelaise que vient de décrire Nico. Là, il y a vraiment une sorte de problème de fond, quoi, entre la direction. Avec les supporters, ok, mais les supporters, à la limite, eux viennent. C'est plus, est-ce que les gens à Bordeaux qui avaient peut-être l'habitude de venir occasionnellement, justement, comme tu le dis, parce que tout est flou au niveau de la direction, qu'on ne sait pas vraiment qui représente ce club, qui sont les dirigeants de ce club, quelle est l'identité de ce club, où est-ce que va le club, est-ce que les gens qui pouvaient venir occasionnellement sont pas tout simplement en train de se détourner en se disant bon bah il y a peut-être mieux à faire à Bordeaux et
il y a du rugby.
Vu qu'il se passe rien au club en ce moment, les supporters ont beau se battre et ils ont raison, on les soutient dans ce combat-là, ça donne pas envie
le problème qu'il y a aussi, c'est qu'aujourd'hui le sportif est malheureusement pas mis en avant, c'est l'extra-sportif qui est mis en avant
c'est ce que je voulais dire, tu as raison, c'est
qu'aujourd'hui comment vous voulez fédérer si le board n'est pas capable eux déjà de fédérer ses supporters, parce que qu'est-ce qui fait l'âme du club, c'est le supporter, c'est-à-dire c'est les mecs qui vont chanter pendant 90 minutes contre des équipes de milieu de tableau, de bas de tableau, on va être là, on va tout le temps être là, on va mettre l'ambiance et ça va pousser les joueurs et ça va donner notre âme et ça va permettre d'aller choper 3 points là où on en choperait qu'un seul, et il y a que le classement aujourd'hui à Bordeaux qui va pouvoir amener du monde. Et comment on fait pour avoir du classement? On a des joueurs, il faut avoir des joueurs compétitifs. Aujourd'hui on a la chance, et ça faut le rappeler, d'avoir un entraîneur qui est super, qui est exceptionnel, qui essaye de mettre des choses en place. C'est pas facile parce qu'il essaye de faire bouger les mentalités.
Jérémy, permets-moi une précision.
Quand tu dis l'âme d'un club, c'est les supporters. J'ai presque envie de dire, c'est surtout ce qui reste quand il n'y a plus rien. Parce que l'âme d'un club ne devrait pas être seulement les supporters. Si on se rappelle, à Bordeaux, tout le monde se rappelle de l'histoire de ce club, tu ne peux pas dire dans les années 80 ou même après, l'âme du club, c'est uniquement les supporters.
Exactement.
L'âme du club, c'est l'institution. C'était par exemple, pour prendre la période années 80, Claude Besse pouvait être l'âme du club, comme des mecs comme
Gires
ou d'autres joueurs, et était l'âme du club. Et il y avait également le public bordelais et les supporters. Ouais. C'est un ensemble. Mais quand aujourd'hui, effectivement, il ne reste que les supporters les plus fidèles, parce que la direction, c'est opaque, c'est des gens qui sont très loin, c'est des, pour ceux qui sont présents, des gens qui ne sont pas des Bordelais à la base, qui sont là pour gérer le club, des joueurs qui ne sont pas véritablement identifiés Bordeaux.
Il n'y a plus d'incarnation.
Oui, voilà, exactement. Exactement. Donc, il faut être précis quand on parle de ça. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est parce que, justement, plein de choses ont disparu que vous vous sentez seul. Et cette solitude, c'est ce qui fait mal à Bordeaux.
Attends, Jérémy, d'abord Kevin et après, vas-y.
Bah, bien sûr, comme dit Jérémy, les supporters, bien sûr, je l'ai déjà dit ici, à Bordeaux, ça reste quand même une des composantes qui rappelle toujours l'histoire, qui rappelle toujours l'amour que les gens ont pour un club, et pour ce club en particulier. Maintenant, c'est vrai que cette problématique, elle se retrouve pas que à Bordeaux en France.
Dans beaucoup de clubs en ce moment, c'est une vraie souffrance pour pas mal de...
Il y a beaucoup de clubs en ce moment, en France et même peut-être à l'étranger, qui connaissent un peu...
À l'étranger aussi, on en parlera ces prochaines semaines quand on aura les émissions, parce que c'est un thème intéressant. Mais à la Roma, il est en train de se passer quelque chose, où après un Américain qui déjà était plutôt mal vu, va succéder à un autre Américain, il va y avoir une rupture, parce que les gens ne veulent plus du tout de ces...
On est en pleine désincarnation des clubs aujourd'hui.
Exactement. Et pour finir avec cette désincarnation, vous vous rappelez de ce club anglais, c'est Cardiff, je crois, qui a changé ses couleurs pendant un moment parce que le propriétaire voulait jouer en rouge alors qu'ils sont en bleu à la base ou inversement. Donc,
ouais, mais Kevin, est-ce que tu connais un seul club ou est-ce que tu connais une seule situation où dans un club tu ne connais pas le propriétaire ? Est-ce que tu connais, parce que tu me parles là effectivement de Cardiff, mais Cardiff, le propriétaire était là et les supporters ont donné leur avis. Là, le problème qu'il y a, c'est que tu peux même pas donner ton avis parce que quand tu demandes, quand tu veux parler, quand tu veux avoir des choses, quand tu veux être rassuré, parce que
entre toi et moi, Jérémy, entre toi et moi, à l'époque d'M6, il y avait aussi des problématiques.
Il y avait aussi des problèmes. Il y aura toujours des problématiques.
Donc, on va dire qu'ils avaient l'impression que Taverneau était quand même, s'il y avait un président délégué, et c'était en l'occurrence Jean-Louis Triot pendant des années.
Lui incarnait Bordeaux
voilà,
quand même.
Il incarnait le club, où il pouvait parler aux supporters, les rassurer ou pas. Des fois, il n'avait pas tout.
Mais c'était un peu la même
chose. Parce qu'il tenait pas les cordons de la bourse, il ne savait pas tout.
En tout cas, au
moins, tu avais l'impression qu'il y a un homme. Là, il n'y a pas d'homme. Enfin, il y en a un nouveau qui est en train d'arriver, mais qui est décrié et que les Bordelais ne veulent pas. En l'occurrence, Longue Épée.
Et ça, c'est un vrai problème. Ce qui se passe aujourd'hui dans le football moderne, c'est que ce sont des gens qui viennent, qui ne connaissent pas le football.
Oui, bien, on le sait, c'est un vrai problème.
Peu importe que tu viennes du club de Bordeaux, que tu aies cet ADN, ou que, par exemple, comme Villas-Boas à Marseille, toi, ton club de cœur, ce soit le FC Porto, mais tu arrives à Marseille, tu sais ce que c'est la culture d'un club, l'amour d'un maillot, l'amour d'un écusson.
Mais tu sais...
Par contre, si tu viens du monde de l'entreprise et que tu n'as jamais compris ou que tu n'as jamais su ce que c'est aimer un club, vibrer pour telle ou telle couleur, là, c'est difficile d'être l'incarnation d'un blason ou d'une institution.
Si tu n'as pas ça, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on posait la question de comment faire venir des gens au stade. Ce n'est pas avec des statistiques que tu feras venir des gens au stade. C'est pas avec des bouts de phrases. C'est juste effectivement, comme vous dites, avec une incarnation, c'est-à-dire avoir quelqu'un de fort, une personne qui va se battre pour le club, qui va se battre pour la région et qui va dire voilà, aujourd'hui, je veux que le FCGB devienne un emblème. Et si tu n'as pas ça, et si t'as personne à sa tête, et si t'as personne sur qui tu peux te reposer, et si t'as pas de communication, parce qu'aujourd'hui il y a pas de communication à Bordeaux, il y a aucune com.
Vous savez que c'est même encore plus compliqué que ça, et c'est là qu'on voit toute la difficulté du foot aujourd'hui. Je pensais pendant que vous disiez ça à l'incarnation, la désincarnation, mais vous prenez un club comme Saint-Etienne, il peut pas être plus incarné. Il y a que des supporters de Saint-Etienne partout dans le club.
C'est vrai.
Et il y a une rupture de dialogue totale aujourd'hui entre les supporters et la direction et les deux ne peuvent plus se parler et les uns ne supportent plus les autres. Et inversement. T'as envie de dire et de penser que quand ce sont des gens, tous stéphanois, tous supporters du club, normalement ça doit aller bien et tu dois pouvoir écrire une histoire ensemble, et ben tu vois que là, ça colle pas non plus.
Mais parce qu'aujourd'hui, le football de haut niveau est devenu... Moi, je le compare souvent, alors quand je parle... peut-être pas ici sur le plateau, mais à un sport de précision. C'est vraiment, c'est comme la Formule 1 aujourd'hui, c'est comme le sport automobile. C'est-à-dire que non seulement il faut quand même avoir quelque chose, aimer ton club, aimer l'entreprise pour laquelle tu travailles, parce qu'aujourd'hui les clubs sont des entreprises, mais en plus, il faut avoir quand même le savoir-faire et l'expérience du sport de haut niveau et du football de haut niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, gérer un club, il faudrait presque avoir un centre de formation des directeurs sportifs ou des présidents aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'on a que... Alors, on va parler de Petrov,
Monaco dans un instant, voilà, bien sûr. C'est un bon exemple, Monaco aussi.
Que ce soit à Monaco, à Paris, avec El Khalifi pendant un long moment, c'est que des gens qui viennent soit d'un autre sport, soit d'un monde de l'entreprise.
Après,
qui est complètement différent.
Il faut savoir bien s'entourer. Certains viennent mais savent s'entourer également.
Et là aussi, il y a plein de contre-exemples. Tu parlais de Monaco, ils font demi-finale de Ligue des Champions et ils sont champions avec un propriétaire qui n'en a rien à carrer du foot, qui est venu là pour le business.
Il y a Vassiliev qui n'a pas du foot aussi.
Mais Vassiliev, quand il arrive, il ne connaît rien du foot.
Mais tu oublies un certain Campos ?
Ah mais donc c'est
ah bien. Oui mais bon non mais ça Kevin, change tout on l'a vu à Lille.
C'est pour ça non mais dans l'organigramme tout dépend où tu as les personnes.
Non mais moi je te dis pas que la personne qui arrive
elle peut Campos c'est pas venu non mais Campos c'est pas venu avec l'amour de Monaco.
Encore
non, il en avait rien à cirer de Monaco.
L'amour et la connaissance du football.
Non il est pas venu avec l'amour, il est venu avec l'idée parce que c'est un connaisseur de faire du business à travers le foot.
Oui mais
et de faire grandir un club.
On est d'accord qu'il faut connaître la matière première qui est le terrain.
Oui, bah alors parle de connaissances, mais laisse les sentiments en dehors de
oui,
ça.
Non, mais...
Parce qu'il n'y a plus de sentiments. Monaco, il y avait une direction, les gens, ils ne connaissent rien. C'est tout. Et à Paris, quand Nasser, machin, et les Qataris arrivent, ils ne connaissent rien en ballon. Et d'ailleurs, Dieu sait si ça leur a aussi joué des tours. Mais si tu vas par là, tu prends Manchester United en ce moment, il y a énormément de clubs comme ça. Donc il faut trouver.
Il faut trouver
des nouvelles formules. Il faut trouver des nouvelles façons de gérer, de s'entourer. De bien choisir les personnes qui vont gérer ton club. Mais aujourd'hui, il y a énormément de supporters, et pas simplement en France, qui sont un petit peu perdus par rapport à ce qu'est en train de devenir leur club et leur football, tout simplement.
C'est ce que je te dis. Quand je te parle de mécanisme de précision, je ne parle pas forcément que la personne qui arrive investisse. Et, de toute façon, c'est toujours ce que je dis. Ceux qui investissent dans le foot, je peux te dire qu'ils ne connaissent rien au foot. Sinon, tu n'investis pas dans le foot. Si tu connais le foot, tu n'investis pas dans le foot.
C'est pas là où tu viens faire des affaires normalement.
Mais voilà. Les gars,
L'exemple de Macron, il ne vient pas que pour le foot.
On est d'accord.
Il vient pour un réseau, il vient pour un développement de ses affaires à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, pour un parc immobilier.
Oui, mais ça Robert-Louis Dreyfus l'avait fait à l'époque aussi.
Ils le font aussi, les Américains.
Ils viennent pour quoi ? Ils viennent pour ça aussi.
Ils viennent pas que pour le foot.
Parce qu'un jour, il y a les droits télé.
Ils ont une vue périphérique du business.
Eh ben non, c'est un business.
C'est un investissement.
On est sorti depuis 40 ans du foot à papa avec le président.
Le foot, c'est un prétexte aujourd'hui pour investir.
Mais même si c'est un prétexte,
après, tu construis autour.
Pour réussir.
Mais enfin, ça l'est même pour tapis à l'OM à l'époque, l'est pour Canal, au PSG, on découvre pas quelque chose de nouveau là.
10 secondes pour finir, même si c'est un prétexte, la précision elle est dans le fait de bien s'entourer, choisit Leonardo, d'avoir Ribolovlev qui choisit un moment au Campos.
Donc si King Street choisit la bonne personne, que le bon entraîneur reste et qu'il y a une gestion cohérente, parce que là le problème de Bordeaux, parce qu'on en revient à ça, c'est en fait de ne pas savoir où ils vont. De pas décrypter le projet, c'est ça. Parce que là, on est parti. La preuve de ce qu'on est en train de dire, c'est la façon dont notre discussion a dévié. On est parti dans plein d'histoires à travers les 30 dernières années qui montrent qu'il n'y a pas de règles sur comment finalement s'en sortir réellement, si ce n'est le truc tout con de dire, il faut juste 3-4 personnes compétentes. Oui, ok, Kevin.
Faut bien les choisir.
Ok, mais t'es d'accord que c'est aussi simple qu'évident.
Oui.
Voilà.
Et puis après, il faut de la compétence.
Donc Bordeaux, que le mec soit à New York, que ce soit King Street ou King ce que tu veux, ça va être dans le choix des personnes qui vont bosser et qui à un moment vont écrire le projet bordelais. Le problème du projet bordelais aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il est.
Voilà. Le problème Bordeaux est devenu un club abstrait.
Exactement.
Jérémy, vas-y, conclue.
Non, mais pour conclure, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans que c'est un peu morose chez nous, depuis le titre de 2009. Et pour une fois, pour une année, on a un entraîneur qui a un projet, qui a envie de faire bosser les joueurs, qui vraiment a un état d'esprit irréprochable. Et aujourd'hui, on se bouffe parce que l'extra sportif nous bouffe. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il y a quelque chose de bien à faire. Et il faut que ça bouge, il faut que ça bouge très très vite, parce que ça devient inquiétant pour nous supporters.
Jérémy, même vous les supporters, même si je comprends tout à fait que ce soit inquiétant, vous êtes tous les week-ends au stade ou un week-end sur deux. Mais tu vois, tu disais, il faut quand même pas créer un environnement qui pourrait même peut-être pousser le seul facteur stable de votre club aujourd'hui, qui est Souza, à vouloir partir, quoi.
T'es obligé. Comment tu veux faire?
Je sais pas si t'es obligé, Jérémy, parce qu'il y a un moment, tu vois, Souza, il faudrait presque qu'il devienne manager de votre club et qu'il prenne de plus en plus de responsabilités. Mais ça, c'est pas.
Bordeaux va le perdre, le Souza.
Lui, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on lui a vendu, même à lui, un projet. Par exemple, cet été, avec du recrutement qu'il n'a pas eu, il est resté. Là, cet hiver, il veut deux renforts. Est-ce qu'il va les avoir? Est-ce qu'il a de la communication, lui, avec les propriétaires? On sait pas. Et effectivement, à un moment donné, si le mec, on le prend pour un con, lui aussi va se barrer. Et là, on va se retrouver dans la merde.
Parce qu'il y aura des offres, évidemment.
Et ça, c'est la problématique. Et aujourd'hui, il faut que le dialogue s'installe. Il faut qu'on ait quelqu'un avec qui parler. Il faut que les ultras puissent être entendus. Il faut que Longue Épée puisse être débarqué et mettre quelqu'un d'autre à sa place qui va pouvoir incarner un projet et avancer. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut, nous. C'est avancer surtout.
Merci Jérémy d'avoir appelé au 32-16. Excellente soirée à toi. Tu reviens quand tu viens à l'after, bien sûr. Voilà, et oui, d'un petit match de Coupe de France, un 32e de finale Bordeaux-Le Mans. On en fait un quart d'heure. Ça, c'est la magie de l'after, tu vois. Les hommes partent, mais les concepts restent. T'as vu?
C'est un nouveau plateau, ça.
Daniel est magnifique. Tu brilles derrière le. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est semblant d'empercer le building du pauvre, tu vois, un truc sur 15 étages.
J'arrive pas trop à savoir, mais c'est bizarre. Bon, c'est bien.
Une composition RMC Sport. Tiens, quelques infos rapidement avant de faire une pause. Thauvin, reprise de la course aujourd'hui. Voilà, info importante pour les Marseillais. Villas-Boas a confirmé qu'il devrait revenir être capable de rejouer mi-février, dans un mois et demi avec Marseille. Malanda et Sanson sont ménagés ce week-end pour Trélissac, le match en Coupe de France, mais apte pour le choc contre Rennes le week-end prochain. Et puis triste nouvelle également qu'on a appris ce soir, le décès d'un jeune joueur de l'An Avant Guingamp, 23 ans, Nathaël Julan, décédé à la suite d'un accident de voiture juste après l'entraînement. Allez, l'after revient dans un instant, bien sûr, on va parler de Monaco, justement, le projet monégasque. Robert Moreno peut faire mieux que Jardim à l'AS Monaco?
On va en parler un peu de Jardim aussi.
Super interview aujourd'hui.
Oui,
à tout de suite.
Exactement.
RMC. L'after foot. Nicolas Jamain.
L'after est là jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz également. Dans un instant, les drôles de dames, Simone Rovera, Fred Armel pour évoquer notamment la rentrée du Real Madrid et le mercato en général. Quelques infos à venir, bien sûr. Monaco aujourd'hui, un jour important pour Robert Moreno, le nouveau coach de 42 ans. Jeune coach, hein. Classe, hein. Jeune. Belle gueule. Bien coiffé. Mais ça suffit pas. Robert Moreno, on le voit à Amiens, hein, Lucas Elsner a un peu le même profil. Peut-il réussir là où Jardim a échoué avec Monaco? Première vraie conférence de presse aujourd'hui pour le nouveau coach monégasque. Première info également, une semaine à Monaco, il parle mieux que Jardim en français déjà. Il a déjà pris des cours intensifs dans notre langue. Tiens, Jordan Olivier est avec nous au téléphone. Salut Jordan.
Salut Nicolas, salut Kevin, salut Daniel, salut à toutes
sur la
et à
French
tous.
Riviera.
Salut Nicolas.
Tiens, dis-nous avant qu'on parle, qu'on développe un petit peu le cas Moreno, comment tu l'as trouvé, première conférence? Il a parlé français, on est d'accord, hein?
Il a parlé français pendant plus de 25 minutes correctement. Bon, forcément, il y a encore des progrès à faire, ça c'est sûr, mais il s'est adressé aux journalistes en français pendant donc plus de 25 minutes avec un thème, messieurs, qui est revenu sans cesse durant cette conférence de presse. Le jeu et encore le jeu. Il ne veut parler que de ça avec une vision très, très ambitieuse, celle d'avoir pour son équipe une conservation de balle totale, de presser très, très haut, de récupérer très vite le ballon, évidemment. On peut que souligner les ressemblances avec le FC Barcelone.
C'est ce que tous les entraîneurs disent en fait.
Si tu veux séduire une première conférence de presse, tu dis ça quoi.
Oui, puis même
possession, pressing.
Non, mais c'est certainement ses convictions et c'est son école de pensée. Mais aujourd'hui, la plupart des entraîneurs te disent que ce qu'ils veulent, c'est le contrôle. Ce qu'ils veulent, c'est récupérer la balle très vite. Ce qu'ils veulent, c'est c'est presser.
C'est surtout ce qui marche en ce moment.
Sauf que lui, il y a une petite filiation quand même avec l'adjoint historique de Luis Enrique. Il a été adjoint effectivement au FC Barcelone, adjoint de la sélection espagnole. Il a été entraîneur principal également de la Roja. Donc, on peut dire qu'il a potentiellement les compétences pour le faire. Après, le tout de savoir, messieurs, s'il a les joueurs pour le faire dans son effectif.
Ah, des joueurs, il en a un paquet quand même.
Construire un collectif, jouer ensemble, faire un pressing ensemble, collectif.
Ça, c'est son travail d'impliquer les joueurs collectivement. Il a, en tout cas, et il suffit de regarder la position au classement de Monaco, il a les joueurs pour aller finir dans le top 5 sûr. Et Jardim le disait avec beaucoup d'assurance aujourd'hui, si on le laisse en poste, lui persuadé d'être sur le podium. Moi, je crois qu'effectivement, il y a de gros soucis derrière avec des joueurs qui semblent ne plus être au niveau. Est-ce qu'on peut les relancer? Je sais pas, parce que les mecs ont l'air un petit peu vraiment usés. Je pense à, on va citer Glick. Mais pour le reste, tu as les joueurs pour gagner les places devant toi et pour terminer bien plus haut au classement. Et il y a le temps.
En tout cas, Daniel,
il y a toute une seconde partie de saison.
Attends, en tout cas, il compte. Il compte sur Glick parce qu'il a annoncé en conférence de presse qu'il n'allait pas changer de capitaine. Le capitaine, c'est Glick. Il a dit que s'il y avait des changements au niveau de ce capitanat, ce serait en fin de saison. Donc, a priori, il compte sur Glick pour la fin de saison.
Et écoutez-le en français, Robert Moreno, justement, sur sa volonté de faire jouer les meilleurs joueurs. On écoute.
Je vais mettre les meilleurs joueurs pour gagner les matchs. Parce que pour moi, ne peut être un moment parfait pour ses pros. Alors, je vais mettre tous les matchs pour moi, je vais mettre quel joueur, parce que je pense que vous devez donner importance à la compétence. Et les joueurs doivent s'entraîner bien. S'ils s'entraînent bien, ils ont l'opportunité de jouer.
Bon, je suis un peu vite, c'est pas encore Jardim, mais bon, dans deux semaines, c'est bon, il parlera mieux. Vas-y, Kevin.
J'aime pas trop le ton que tu prends quand tu parles de Jardim.
Pourquoi ? Non, mais attendez les gars, pas de communautarisme ici, s'il vous plaît. Allez, vas-y.
Non, mais moi, Moreno, franchement, je suis très, très curieux de voir ce qu'il va faire avec l'AS Monaco. Parce que, bon, un peu comme tout le monde, je me suis un peu renseigné, j'ai un peu regardé à droite, à gauche ce qui se disait sur lui. C'est quand même ce que j'appelle aujourd'hui un scientifique du foot. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas joué à un très haut niveau, mais en tout cas qui a eu un parcours d'entraîneur déjà assez intéressant, en étant quand même plusieurs saisons adjoint à Barcelone, et ça arrive pas à n'importe qui. Ensuite, il a travaillé avec la fédération en tant qu'adjoint, puis en tant que sélectionneur par intérim, mais ça a bien fini, il a bien failli être le titulaire. Il a également écrit un livre, on en parlait un peu avant.
Il a écrit un bouquin sur le 4-4-2. Sobrement intitulé Ma recette du 4-4-2.
Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui a
décidé... 6 ans le mec, hein.
Non, mais... recette.
Ma recette du 4-4-2.
Non, mais c'est vraiment quelqu'un qui, je
donc
pense,
il ne joue qu'en 4-4-2.
Ben... Non, il a dit qu'il pouvait aussi.
C'est
intéressant.
Changer,
hein.
Non.
Il a dit qu'il pouvait.
Non, justement.
Je dis ça parce qu'il
a été interrogé sur
là-dessus. Juste, après,
juste Jordan. Je te disais que donc j'avais vu aussi qu'il n'avait pas dit qu'il jouerait qu'en 4-4-2. Mais je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a quand même. Un QI foot, comme elle aime à le dire Daniel, qui, je pense, est assez élevé. Maintenant, il a dit aussi quelque chose dans la première conférence de presse où il a dit, ouais, vous savez, moi, j'ai été entraîneur adjoint assez longtemps et être entraîneur numéro un, ça me fait pas peur parce que le métier, c'est un peu le même, à part qu'aujourd'hui, c'est moi qui va prendre les décisions. Par contre, là, je suis pas du tout d'accord avec lui parce que lorsqu'on est entraîneur adjoint, on est un peu du côté des joueurs. On doit faire la passerelle entre l'entraîneur principal et les joueurs. Et par contre, lorsqu'on est entraîneur principal, je pense qu'on est vraiment là. Il n'y a plus de tampons, il n'y a plus de filtres. Et c'est à vous que les joueurs vont en vouloir lorsqu'ils ne jouent pas.
Là, il découvre un nouveau métier quand même.
Il découvre complètement un nouveau métier. Il a quand même un visage, comme l'a dit, un peu beau gosse, comme ça, un peu juvénile. Et les joueurs, ça va aller la première, la deuxième semaine. Mais il ne va pas falloir qu'ils fassent beaucoup d'erreurs parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les médias, mais les joueurs non plus, ne sont pas très indulgents avec les nouveaux entraîneurs. On l'a vu avec Thierry Henry et consorts. Et ça, un jour, ce serait un avis tranché que je ferais dans l'after sur les jeunes entraîneurs qui ont pas beaucoup de crédit, en tout cas pas assez à mon goût.
Damien au 32-16, Super Termin Legas qui est avec nous. Salut Damien.
Bon.
Damien, on t'écoute. Hein.
Ouais, tout a été un petit peu que je vous écoute.
Au revoir. Merci. Hein. On t'envoie un t-shirt et te dire bonne année.
Merci, c'est sympa les gars.
Vas-y Damien.
Non, mis à part quand même deux trois petites précisions. Je pense que c'est quand même un entraîneur qui a eu 8 matchs à la tête de la sélection et qui a montré qu'il était capable de faire des choix dans ces 8 matchs. C'est-à-dire, il était capable quand même de mettre un De Rea sur le banc pour y mettre Kepa. Il a alterné aussi devant avec d'autres solutions que Luis Enrique avait prônées. Il a redistribué un peu des cartes tout en restant proche des joueurs. Je pense que c'est un peu la méthode espagnole aussi qui est. Quand on parle des tactiques, il est évident que quand vous baignez dans la culture barcelonaise, malgré son petit détour à l'AS Roma et au Celta Vigo, on est forcément imprégné d'un style de jeu, mais il a montré qu'il était capable de faire évoluer un 4-4-2 et l'Espagne a plus joué en 4-3-3.
Damien,
en fait, on sait pertinemment que le système c'est une chose, mais c'est les joueurs qui font le système.
Ben justement, Damien, je me permets de te couper une seconde. Attention. Tu viens de dire, c'est quelqu'un qui a la mentalité espagnole, qui a travaillé en Espagne. Je vais te dire une chose. Les joueurs espagnols d'aujourd'hui, c'est pas les joueurs français d'aujourd'hui. Hein. C'est pas du tout la même mentalité, c'est pas du tout la même
formation. Kevin.
Mon discours ouais,
l'effectif de Monaco est quand même assez international aussi. Hein. Donc,
oui, voilà, assez international, mais bon.
Mon discours n'était pas
les jeunes joueurs, ils sont pas les jeunes joueurs. Les jeunes joueurs dont parle Jardim dans cette fameuse interview, Jordan, ils sont pas internationaux. Hein. Pour beaucoup, ils sont français. Mais bon,
il y a quand même un sens étranger.
Il y a quand même un sens étranger.
Qui veut dire
Là où il a raison, Damien, je reviens sur un point. Il n'est pas obtus sur le 4-4-2. Non, il l'a rappelé tout à l'heure en conférence de presse. Il a dit, je peux passer du 4-4-2 au 4-3-3. Si je dois m'adapter à l'adversaire, je m'adapterai. Si je dois faire une analyse de l'adversaire, justement, pour faire évoluer mon schéma, je le ferai. Et puis, pour revenir à sa relation avec les joueurs, Fabregas est passé après lui en conférence de presse. Et Fabregas a dit, ce qui est intéressant avec Moreno, c'est qu'il nous explique ses choix. Il nous explique pourquoi on fait cet exercice, pourquoi on se met dans cette disposition là, et c'est très apprécié de la part de Fabregas. Bon, il est espagnol, donc on va peut-être se dire
c'est une habitude
espagnole.
Il soit au niveau après.
Faudrait que Fabregas soit au niveau, mais en tout cas c'est apprécié au-delà de Fabregas par a priori pour l'instant l'ensemble du vestiaire monégasque.
Non mais Jordan, moi après, ce que je dis quand je parle de la différence de mentalité, de la différence de d'ADN footballistique, Fabregas, j'ai aucun problème pour lui. Il va faire ses meilleurs matchs avec Moreno depuis qu'il est.
Où tu t'avances, Kevin?
En tout cas, ses meilleurs matchs possibles. Je veux dire, ses meilleurs matchs possibles dans l'état physique où il est aujourd'hui. Il me fait pas dire ce que j'ai pas dit, Nico.
Non.
Pas dit qu'il va avoir
duré le Fabregas. En fait.
Mais tu vois ce que je veux dire? Ça peut durer trois semaines. Mais par contre, je peux te dire que quand il dit qu'il explique ce qu'il est en train de faire, qu'il explique les exercices, là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est qu'on peut t'expliquer quelque chose. Mais quand tu l'as pas appris, tu vas faire semblant d'avoir compris. Par contre, quand ça va être 90 minutes à haute intensité, ça va être autre chose, les choix que tu vas faire. Donc c'est pour ça que je dis attention, il va, je pense, il a de grandes chances de réussir, c'est pas ce que je dis, mais il va, ça va mettre du temps.
Moi, je voudrais juste, si je puis me permettre, revenir quand même sur le petit passage de on est obligé de parler de Jardim et de la transition de Jardim. Je trouve qu'il parle beaucoup aujourd'hui dans l'équipe. J'ai pas trop aimé la sortie du bonhomme. Je vais être franc.
Ouais, alors la sortie. Moi, j'ai adoré. Qu'est-ce que t'as pas aimé? On va en parler justement. Vas-y.
Voilà, on peut juger la sortie élégante, inélégante. C'est pas tellement ça, mais je trouve qu'il a beaucoup de certitudes. Là où il nous a rien montré. Alors moi, j'étais pour son renvoi déjà l'année dernière. Je pense qu'on s'est trompé dans le choix du coach qu'on a fait venir. Et honnêtement, n'importe qui à la place d'Henri se serait planté. D'ailleurs, il est revenu. Il a gagné juste trois matchs qu'il fallait gagner. Le reste de la saison, ça a été un calvaire. Il nous parle comme si le début du mercato tardif est la cause de tous les maux des résultats du club. Sauf qu'on voit bien que les dernières journées, on perd à Porto un match imperdable. On perd à Saint-Etienne un match qu'on doit pas perdre. On fait un nul pauvrissime à Angers. On en prend trois chez nous contre Lille. C'est complètement en dents de scie. Donc je pense que quand on a ces résultats-là, je pense que ça montre aussi quel était le personnage et quelles étaient les problématiques qui généraient sur le club derrière.
Damien, excuse-moi, mais vous avez la mémoire courte. Excuse-moi de te dire, mais vous avez la mémoire courte. Les gars.
Il a raison, Damien. Il redit pas le travail qu'a fait Jardim en 2017.
Pas le passif. Mais c'est vrai que pas le passif du gars.
Damien, c'est vrai que quand tu lis l'interview de, d'ailleurs, j'ai l'impression de découvrir Jardim pour la première fois depuis qu'il est arrivé à Monaco.
C'est un peu tard.
Lui, il dit pour rien en fait. T'as l'impression. Les mauvais résultats récents de l'AS Monaco.
Non, c'est pas vraiment ça.
Il y a de ça.
C'est pas complètement ça.
Le recrutement tardif, c'est l'arrivée de Petrov.
Non, mais c'est pas complètement ça que j'ai vu dans l'interview. Ce que j'ai vu aussi, c'était une justification de ce qui s'est passé, des résultats.
Une explication.
Exactement, pardon, oui, c'est le bon terme. Une explication. Et surtout, est-ce que. Alors, je sais pas si, quand tu as lu l'interview, je lisais l'interview, tu sais, t'as les pages du journal, et j'avais. Il donne des éléments de résultats que
je sont surprenants.
Alors, je sais pas si je me suis dit. Attends,
tu penses à quoi par exemple?
C'est parce que t'es parti. Je me dis, t'es parti 10 jours en vacances et t'as déjà oublié. J'avais l'impression d'être largué. Ouais. Là, je suis quoi? 10 points sur 12. Et tu sais, je tourne la page et je vais regarder le classement. Je fais putain, mais merde, Monaco, ils sont là. Ouais. T'as l'impression que tu étais déconnecté de ce qui s'était passé à Monaco récemment. Oui, mais en fait, le problème, c'est que. Effectivement, quand il dit « si on me laisse jusqu'au bout, vu notre position au classement et le travail que je sens que je peux accomplir, on peut viser, je crois toujours au podium », bon, il a le droit de le dire, de toute façon, il n'est plus là, donc on saura jamais. Mais en fait, je crois que les résultats ont plaidé pour lui.
Ouais.
Les Monégasques, que je pense, lui accorderont toujours ça et ils mettront toujours ça à son crédit. Mais j'ai l'impression que sur toute la période où il est resté, pour un mec qui a fait autant, parce qu'il a fait beaucoup pour Monaco, il y a un titre de champion improbable au milieu d'une domination du PSG, c'est une année fantastique, plus deux belles campagnes de Ligue des Champions. On a l'impression qu'il a jamais. Mais ça, c'est une affaire de personnalité. Oui, et des fois, t'as des entraîneurs qui il y a une forme d'ingratitude vis-à-vis d'eux. Il a jamais réussi à déclencher un affect avec les gens.
Ouais, mais non, ça c'est sa communication.
Et c'est ce qui fera, ce qui fera qu'il aura du mal à retrouver un bon club.
C'est un peu un délit de sale gueule, moi.
Mais tu vois, justement.
Kevin, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que les supporters monégasques n'ont jamais complètement aimé le.
C'est parce qu'ils ne parlaient pas, parce qu'ils ne communiquaient pas. J'ai l'impression que j'ai découvert aujourd'hui dans le journal L'Équipe, pour le citer, c'est vrai.
Ouais, un peu austère,
il a jamais parlé sur la durée comme ça.
Pour une fois. Je sais ce que tu vas nous dire, Damien. Je sais que vous oubliez pas la Ligue des Champions, le titre de champion. Je dis pas ça, moi. Moi, je dis pas ça. Moi, je pense que, et messieurs, sans vouloir, avec ma petite expérience, vous vous rendez pas compte dans quelle atmosphère a travaillé Leonardo Jardim. Mais vous vous rendez même pas compte, en fait.
Kevin, on est d'accord que le problème de le Monaco est effectivement bien plus large que Leonardo Jardim. Mais c'est un problème également structurel au niveau de l'organigramme du club.
Mais tu te rends compte, Jordan, dans quelle atmosphère il a travaillé quand il dit. Il connaissait
cette atmosphère-là aussi Kevin. Il le connaissait très bien. Il savait en revenant à Monaco où il mettait les pieds.
Il dit également, il y a des gens en club qui n'aimaient pas les victoires.
Mais il a participé aussi. Ouais.
Mais quand tu dis, Monsieur Petrov intègre le club. Je lis l'interview. Sincèrement, de mon côté, je n'ai jamais senti que j'étais son entraîneur. À ses yeux, j'ai toujours été l'entraîneur du président et peut-être de Vadim. Mais vous pouvez me dire ce que vous voulez. Mais ce qu'il dit là. C'est la vérité.
Personne n'est obligé à maintenir sa confiance à Glick, à Jamerson, à faire des choix tactiques étranges.
Vous n'avez pas été dans un vestiaire où déjà, t'as l'impression que ton manager général, il vient de le dire, il l'a pas choisi, entre guillemets, il a qu'une envie, c'est de te dégager. Si derrière, t'as pas tes cadres du vestiaire qui tiennent le club, mais qu'est-ce que tu fais au club? Dans ce cas-là, rends les clés. Mais c'est ça la vérité, les gars. Après, vous voulez vous voulez pas l'entendre, vous auriez pas fait mieux que lui. Ça, c'est clair.
Ses lieutenants étaient effectivement derrière lui, les Glick, les Jamerson, mais sur la fin de la période monégasque, enfin de Jardim à Monaco, le vestiaire commençait à s'effriter. Certains joueurs ne comprenaient pas non plus ses choix. On passait de 5 défenseurs à 4 défenseurs trop facilement. Et c'était des choix qui étaient remis en cause à l'intérieur même du vestiaire.
Mais la dernière chose que je dis sur ce cas-là. Je vais pas faire que défendre Jardim. Mais le vestiaire, il a remis en cause Thierry Henry. Le vestiaire, il remet en cause chaque entraîneur qui les fait pas jouer. Les joueurs, c'est les premiers à tourner le dos à quelqu'un. Donc arrêtez de me dire le vestiaire, s'il vous plaît. Le vestiaire, je veux même pas savoir ce qu'il en pense. Le vestiaire, si je te fais jouer, c'est un bon entraîneur. Si je te fais pas jouer, il faut le virer, faut en prendre un autre.
Voilà. Kevin, c'est Kevin qui vient de parler, il a raison, un joueur c'est versatile, ça joue, ça en sens, ça joue pas, ça trouve des excuses et des raisons. Mais là où je suis pas d'accord avec votre analyse, c'est que Jardim y a participé aussi à ce climat un peu malsain. Quand il est revenu, quand ils sont venus le rechercher, pourquoi il a été viré? Il a été viré parce que d'une, les résultats ne suivaient pas. Deux, parce que ça commençait effectivement à se lever dans le vestiaire et que les choix tactiques n'étaient plus compréhensibles. Et effectivement, Jamerson ne doit plus jouer depuis deux plombes et il est tout le temps titulaire. À un moment où moi j'ai été joueur de foot à mon niveau, mais on est tous pareils. Quand il y a un mec qui joue et qu'on comprend pas parce qu'il n'est pas meilleur que nous,
c'est une erreur qu'il fait. Et quand on a vu les résultats,
c'est à quel que soit le niveau, il y a un moment donné, l'entraîneur.
Ça, c'est clairement une erreur qu'il a fait.
Mais deux, quand vous voyez Jardim. Quand vous regardez, qu'est-ce qui s'est passé au club quand Jardim est revenu? Il a été viré tout de suite. Il a été viré le directeur du centre de formation pour rappeler Bertrand Rozeau. Bertrand Rozeau, c'était son homme. Monaco est un club où il y a des luttes d'influence.
C'est pareil partout.
Voilà, mais à Monaco, c'est très prononcé, effectivement, peut-être plus qu'ailleurs, et peut-être plus cadenassé qu'ailleurs. Et là, vous avez quoi? Vous avez un président qui préside, mais qui s'intéresse sans s'intéresser. Vadim, qui, et on le sait, a montré les limites du système dans lequel il nous a mis, c'est-à-dire que le système est le bon. Mais on a été dans un excès tellement dégueulasse dans la période des transferts. La charnière, ça a été justement cette période où on a gagné le titre, on a fait cette demi-finale de Ligue des Champions. Sur les transferts, on s'est fourvoyé. On a vu un quart d'heure.
Les gars, on va conclure sur Monaco.
Damien, juste pour conclure sur Monaco, moi je pense que Monaco est parti. Monaco est parti en vrille le jour où Campos est parti. Point terminé. Point terminé. Jardim a pu vivre. Jardim et les autres ont pu vivre sur le travail de Campos depuis qu'il est plus là. Vous pouvez me dire c'est de la faute d'un tel, un tel, un tel. On n'a jamais réussi à le remplacer. Point.
Ok Damien, merci Damien.
Allez, bonne soirée, messieurs.
Merci, bonne soirée. Continuez à la faire, bien sûr. Tiens, messieurs, d'ailleurs, ça sera à court terme, ça va être compliqué pour Moreno. Il va jouer le PSG deux fois en trois jours. Hein. Le 12 janvier en Ligue 1 et également le match en retard reporté le 15 janvier. PSG-Monaco et Monaco-PSG avant de recevoir Strasbourg.
Et un match de coupe avant.
Monaco qui est. Oui, à Monaco-Reims, oui. Oui, mais c'est pas là-dessus que tu.
Oui, mais comme c'est un club de Ligue 1, je pense que ce premier match va être important pour lui. Il en est, j'imagine, comme tout entraîneur qui arrive, à faire une sorte d'état des lieux, de voir sur qui il va compter ou pas, parce qu'il va devoir raccourcir son effectif pour la deuxième partie de la saison.
29 joueurs. Hein.
Je pense que ça, ce match-là, justement, est très important pour lui.
Monaco 7e à 5 points seulement de Rennes, 3e, hein, tu vois comme quoi.
Oui.
Monaco podium, c'est tout à fait possible.
Un choix intéressant.
C'est même l'un des favoris pour le podium, du coup. Voilà, tiens, quelques infos mercato, messieurs, pour vous dire que Lyon, décidément, Lyon est à fond sur un jeune Portugais du Benfica. Jadson Fernandez, on dit comme ça ?
Ouais, exactement.
19 ans, et bien il se trouve que c'est West Ham a priori qui va récupérer le gamin.
C'est un très bon joueur. Moi, franchement, je trouve que.
Il joue pas ?
Ouais, il joue pas parce que. Il joue pas parce que depuis que Bruno Lage est arrivé, c'est clairement, voilà, il y a des joueurs comme Glick et Jemerson qui étaient les fistons de Jardim. Mais bah, là, c'est plutôt Florentino Luis, un autre jeune du centre formation qui joue à Benfica.
Non, mais franchement, j'arrive même plus à tirer un gamin qui joue pas à Benfica.
Jadson, c'est un très bon joueur. Profil Reina Adelaide.
Kevin, à la limite, on s'en fout de Jadson Fernandez.
Oui, c'est ça.
Aujourd'hui, c'est que Lyon, qui est notre deuxième plus gros club, qui a un énorme budget, est plus capable d'attirer de joueurs à partir du moment où tu as un concurrent. Voilà, on va me dire
la première ligue.
Andersen cet été, oui, en alignant une somme incroyable qu'aucun autre club visiblement n'avait envie de mettre, mais c'est que ils ne savent plus quoi faire sur le marché des transferts et ne pas pouvoir rivaliser même avec un club très modeste de première ligue qui a de l'argent, hein, ce sont des clubs qui ont de l'argent, on le sait tous en première ligue. Mais en fait, Lyon n'a plus aucun pouvoir attractif. Et ça c'est terrible. Ça c'est terrible.
Tiens, je vais revoir Jordan quand même. Merci Jordan, excellente soirée à toi.
Merci messieurs, bonne soirée.
Jordan. Bon
courage. Ouais, c'est vrai qu'ils ont loupé Draxler, bon, c'est plus dur.
Non, mais ils ont Kevin pas loupé Gamero. Draxler. Ils ont pas loupé Draxler.
Non, vous voulez pas Draxler.
Qu'est-ce que Draxler
Gamero ne voulait pas venir, Thomas Lemar a dit non.
Et Gamero, il est en Liga. Quand t'es en Liga, je veux dire, venir à Lyon.
Oui, mais à 33 piges, tu vois, tu reviens en Liga à Lyon, il y a rien d'infamant.
Donc ça veut dire que pour revenir.
Un 8ème de Ligue des Champions à jouer, je pense que le salaire est loin d'être infamant aussi.
D'accord.
C'est pas un scandale de revenir à Lyon, tu vois.
C'est pas un scandale, mais à sa place, moi je reste où je suis. La passion du foot est meilleure, le club est meilleur.
Non, mais alors là, si on juste sur la passion du foot, dans l'Angleterre,
ça
l'Espagne.
Pour les joueurs. Non, mais c'est ça compte.
Si toi, t'es joueur, t'es à Valence.
Bon, regarde, Koscielny, il est bien revenu à Bordeaux.
Mais pour des raisons familiales.
Ok. Gamero, ça aurait pu être la même chose.
Bah, donc voilà, donc en gros, pour te faire revenir, il faut que ce soit pas du foot qui te fasse revenir. C'est
terrible. Tente, vive à Lyon,
c'est le niveau.
C'est,
mais ça, c'est le niveau de notre foot hein, qui est illustré là présentement.
Et puis rapidement, Valère Germain intéresserait le FC Nantes, hein, on en est loin, évidemment. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dylan Brown à Metz pour 5 saisons. Ouais, intéressant. Dylan Brown, tu vois qui c'est ou pas?
Non, je vois pas qui
c'est. C'est le frère de Jimmy.
C'est exactement. Qui va être papa bientôt d'ailleurs, je crois.
Jimmy?
Ouais.
Ah bah, ça m'intéresse.
Une question de minutes, c'est imminent apparemment. Ah. Ça. Vraiment, c'est aujourd'hui ou demain. Allez, l'after revient dans un instant avec Fred Hermel et Simone Rovera, bien sûr, on va évoquer Zlatan. Peut-il relever le Milan?
Pitié,
oui, non.
Pitié. Oh, le défi est grand.
Mais t'as vu la folie? T'as vu la foule à Milan pendant deux jours là?
Ouais.
C'est toujours mauvais signe quand un mec de 38 ans arrive et qu'il est pété comme une star.
C'est plus que mauvais signe.
C'est très mauvais signe.
Ça faisait penser à Galatasaray ou Fenerbahçe.
Ou le PSG avec Beckham aussi, tu sais.
Ah, y avait pas de
c'était pas la folie,
ça.
Non.
Il n'y avait pas la folie comme ça. Non.
Elle a tout de suite avec Fred Hermel et Simone Rovera.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, avec Daniel Riolo, bien sûr, on est ensemble jusqu'à minuit. L'After, la première en 2020. La télévision avec un magnifique décor. Oui, on le dit. Quand c'est pas beau, on le dit. Mais là, c'est beau. Voilà. C'est Paris, New York. Je veux dire Amsterdam, pas du tout. Ça peut être Sydney, Melbourne. Abu Dhabi, peut-être.
Ah, là-bas.
Une ville verticale, quoi. Fred Hermel n'est pas dans une ville verticale. Salut, Fred.
C'est vrai que c'est pas très haut ici. Bah voilà, non, Ticos.
Bon, c'est en hauteur.
Salut, Fred.
Bonne année,
Fred.
Bonne année, toi aussi. Hein.
En matière de foot, je te souhaite pas grand-chose, mais pour tout le reste, oui.
Bon, c'est vrai que le foot, c'est vrai que pour le foot, t'as pas besoin de me souhaiter grand-chose parce que j'ai déjà tout.
C'est vrai.
Toi, t'as pas eu tout l'an dernier, hein.
Non, mais en termes de résultats,
2019 est raté, hein.
Ouais, bah, 2019, mais.
Oui, voilà, bah oui.
Raté. Ah oui, bah. Attends.
Non,
mais moi, j'aime bien. Moi, je suis dans un championnat qui va jouer encore la dernière journée. D'autres peuvent pas dire la même chose.
Non, t'as raison.
Tu vois ce que je veux dire.
La deuxième place, peut-être.
Enfin, bref.
Quoique, qu'est-ce qu'on te souhaite, Fred, 2020? En deux mots.
Ça continue comme ça, hein, c'est tout va bien là.
De vendre des livres encore plein, c'est ça.
Ah bah oui, ça oui, si on peut encore, on passe pas. Hein.
Oui, c'est ça. Plus de 20 000, hein, je crois. Allez, Simonet, salut.
Ciao, buonasera, bonsoir, bonne année.
Mais quel enthousiasme.
Bonne année, Simonet. Bah, Simonet, c'est la vraie vie. Tu peux lui souhaiter le titre parce que c'est jouable. Hein, pour
ah oui. L'Inter.
Bah écoute, il y a plein de choses à souhaiter pour cette année.
Hein. Bah arrête, me dis pas que tu voudrais pas du titre. Hein.
Bah, je voudrais, écoute, 10 kilos en moins et un Coupe d'Europe en plus.
Ah,
Coupe d'Europe. Pour n'importe quel club italien.
D'accord, ok.
Et j'ai demandé trop.
Bah, tu peux en avoir deux, même si tu veux Ligue des Champions Europa League, si t'as envie.
T'as plus de chances de gagner une Coupe d'Europe.
On peut tout demander,
que...
hein, le 4 janvier, non. On peut tout demander.
Moi, je pense qu'il a
moi,
plus
je
de chances
qu'il peut perdre plus facilement les kilos.
Non. Il a plus de chances de gagner une Coupe d'Europe que de perdre les 10 kilos, je pense. Compliqué. Voilà, messieurs, tiens, on va commencer par toi, Fred. Je sais que t'étais pas trop chaud pour en parler, mais quand même, tu vas me taper dessus. La une de Marca. T'as vu, c'est agace déjà. La une de Marca qui met en une.
Si tu te donnes mon avis, ça va durer 30 secondes.
Trois joueurs lillois en une de Marca.
J'aimerais bien savoir qui.
Dans le radar du Real Madrid. Alors évidemment, c'est avec un jour qui se passerait en Espagne, qu'il faut vendre du papier.
Non, mais vas-y, dis les noms, décris là, puis je te fais 30 secondes.
Alors les noms, attends, je les retrouve. Il y a évidemment Victor Osimhen. Tu sais. Il y a également Boubacari Soumaré et Gabriel. Avec. Une vraie touche pour Soumaré pour ce concernant le Real Madrid.
Bon, 30 secondes.
Vas-y.
Y a pas
c'est
de football
faux
depuis
ou pas
15... bah, attends. Il n'y a pas de football depuis 15 jours. Donc il faut bien faire des unes. Ça, c'est normal. En Espagne, il y a plein de journaux sportifs. Il faut faire des unes. Et puis, je ne dis pas que c'est faux. Mais dès comme ça, le Real en suit 100 ou 150. Parce que le Real a une nouvelle politique que je vous ai expliquée depuis pas mal de temps déjà, depuis 2-3 ans, qui est de repérer des jeunes joueurs de moins de 20 ans. C'était le cas avec Vinicius, c'était le cas avec Rodrigo, c'était le cas aussi, même s'il a un tout peu plus de 20 ans, avec Militao. Le Real Madrid ne veut pas dépenser 100 millions sur des joueurs qui ne sont pas des grandes stars. Le Real peut payer 200 millions sur une grande star, mais pour le reste des joueurs, ils vont continuer à miser sur des jeunes, puisque pour l'instant, ça marche pas mal, parce qu'on voit l'explosion, par exemple, d'un Rodrigo qui est quand même très très fort. Donc voilà. Donc moi je vais pas mettre en cause les copains de Marca, mais Marca enfonce un peu une porte ouverte. Voilà. Mais sur les trois Lillois,
vous, c'est marquant quand même. C'est osé quoi. Trois Lillois en une de Marca. On se dit qu'il y a forcément quelque chose. Ce serait pas idiot, Osimhen d'ailleurs.
La presse espagnole. Mais faire des unes sur rien du tout, des choses qui n'existent pas, ça leur pose
trois Lillois. C'est surréaliste.
Non, mais si le fait que ce soit trois Lillois, ça t'excite à ce point, demande à Fred qui découpe la une, il t'en fait un cadre, il te l'envoie chez toi, tu l'accroches à la maison.
Franchement, il y a des trucs plus intéressants. Franchement, c'est-à-dire que le Real, mais le Real, comme tous les grands clubs, suivent plein de joueurs. C'est leur boulot, ils sont payés pour ça. Enfin, je veux dire, des centaines de joueurs de par le monde, et peut-être qu'à ces trois Lillois, mais moi, je vais même vous dire que cette une, elle
est-ce
a tellement d'impact.
Une souffrance, un Lillois au Real pour toi.
Mais attends, Osimhen, il fait
non,
bien. T'as que
rigoles.
Benzema au Real, il n'y a que lui qui marque des buts, il n'y a personne derrière.
Non, mais je vais vous dire un truc. Cette une a été tellement marquante qu'il n'y a même pas eu une seule question à Zidane en conférence de presse sur cette une ce matin.
Alors, en revanche, le mercato a été évoqué, il a dit il ne veut aucune recrue, c'est ça?
Non. Mais je vous l'avais déjà dit avant Noël.
Mais tu trouves ça.
Bah, parce qu'il estime qu'il a un bon effectif. Il y a sûrement deux joueurs qui vont partir parce qu'ils ont aucune minute dans les jambes et Zidane n'en veut plus. C'est Mariano Diaz et puis Brahim Diaz. Donc ce sont deux joueurs mineurs.
Il existe encore pas... Mariano.
Qu'est-ce qu'il a contre les Diaz?
C'est vrai. C'est vrai.
Pourquoi Lyon ne ferait pas revenir Mariano Diaz?
Mais parce qu'il prend 5 millions nets par an.
Et bah alors Lyon prend la moitié du salaire et voilà quoi. Il a mis 18 buts avec Lyon sur une saison de Ligue 1. Il a fait 5 passes.
Mais pourquoi il n'a pas pu être vendu cet été? Parce qu'il touche trop d'argent.
Jean-Michel.
Oui, à condition qu'il prenne tout le salaire. Compliqué quand même.
Ouais, c'est compliqué, c'est pour ça. Cette question. Lui, il est très bien, il gagne 5 millions ou pas, il gagne 5 millions net après impôt.
Incroyable.
Direct dans la popoche.
Incroyable.
Ah là, le Real, ils ont fait fort à lui filer tout ça.
Ah ouais, là-dessus, ils ont fait une belle connerie.
Franchement, Fred, on n'a pas compris pourquoi ils ont repris. ce joueur.
Non, mais Zidane se pose la même question. Hein, donc...
Oui, il n'y est pour rien.
Il est pas rien, il n'était pas l'année dernière.
Enfin, tiens, bon, voilà pour le Real. Il est la rentrée des classes aujourd'hui, hein, 2020 de ouais. Zidane. Hein.
Oui, alors c'était la première conférence de presse de l'année. Et puis, il faut voir une chose, c'est que le Real Madrid, qui a un match hyper compliqué à Retafe demain, 16h, j'y serai bien entendu, parce que Retafe, c'est l'une des équipes les plus solides.
Reprise du championnat.
Reprise du championnat ce soir. On a d'ailleurs vu un très beau Séville, un partout, contre l'Athletic Club de Bilbao.
Ouais.
Et donc oui, c'est pas de la coupe, hein, c'est du championnat. Et déplacement à Retafe, c'est compliqué parce que c'est une des meilleures défenses. C'est une équipe rude, c'est une équipe hyper dure à bouger. Et le Real Madrid a souvent la gueule de bois après les fêtes. C'est-à-dire que juste après la pause de Noël, là, le Real Madrid perd des points. C'est, d'ailleurs, sur les 5 dernières années, le Real Madrid n'a gagné qu'un seul match. Donc c'est un vrai gros test, surtout que le Real Madrid vient quand même de faire 3 matchs nuls de suite avant Noël. Donc, et la question que j'ai posée à Zizou ce matin, c'est mais est-ce que tu as fait un travail spécifique, etc. Comment sont tes joueurs, voilà, comment tu le sens. Bah, on va écouter Zizou. Allô?
Zidane, au micro de Fred Hermel, tout de suite en conférence de presse.
Et physiquement après une semaine, et justement on est bien revenu. C'est ça le plus important, c'est de pas perdre en fait, même quand tu as quelques jours de vacances. Et on a pas, non seulement on n'a pas perdu, mais on est revenu avec beaucoup de motivation. Les joueurs ont envie de rejouer, et ça c'est plus qu'important, plus que de penser en fait au fait que qu'à chaque fois que Madrid, quand ils reprennent l'année, il y a des difficultés. On passe pas ça, non.
Bon, c'est pas super intéressant, Fred, non?
Ah bon? Tu considères que mes questions à Zidane?
Non, mais sa réponse, tes questions sont bonnes.
Mais non, il dit qu'il s'inquiète pas, justement, puisqu'on parlait
de Zidane
des problèmes.
Conf, non, mais là,
on parlait des problèmes
c'est
de.
C'est pas l'entraîneur le plus passionnant.
Oui, c'est vrai.
On parlait des problèmes du Real Madrid. Je lui posais une question, est-ce qu'il s'inquiète du fait que le Real Madrid a souvent du mal à gagner après l'hiver? Bah, a priori, il est pas inquiet, quoi. Voilà.
Fred, tiens, parlons rapidement de Thomas Lemar également. Simeone était en conf également. C'est parfois plus intéressant, Simeone, quand il parle. Il s'inquiète de l'avenir de Lemar à l'Atlético.
Ah, ça marche pas, on le sait, ça marche pas.
Il a dit ça marche pas. Il dit ses agents travaillent bien actuellement.
Ouais.
Il dit ça. Je connais ses qualités. Pour l'instant, on les a pas vues, grosso modo. Hein, je résume. Hein.
Ouais, et c'est
mais
ils
sont encore là. Donc, c'est foutu, c'est fini l'histoire.
Un an et demi, c'est beaucoup. 6 mois, c'est l'adaptation. Saison, si t'es très très large, un an et demi, ça fait quand même beaucoup.
Surtout. Que Simeone lui a laissé beaucoup d'occasions. Vraiment.
Il a fait jouer.
Il l'a défendu, mais contre vent et marée. Le problème de Thomas Lemar, je pense qu'il s'est planté de club. Il n'est pas Simeone et Atlético compatible. C'est-à-dire que physiquement, il tient quand il est titulaire, et c'est pas souvent, il tient une heure. Après, ça baisse de manière.
Mais il va quand même finir l'année à l'Atlético. Donc,
Tu sais, l'Atlético, ils ont besoin d'un peu de sous, là, pour pouvoir acheter un attaquant, un buteur. Puisque Diego Costa a une hernie discale, il reviendra pas avant le mois d'avril, voire le mois de mai. Donc, il faut absolument un buteur. On parle de Cavani, bien entendu, hein, mais, et peut-être de Paco Alcacer. Donc, je pense que là, l'avenir de Thomas Lemar passe pas forcément par
l'Atlético. Paco Alcacer, c'est jouable parce que Dortmund vient de prendre Haaland. Donc,
c'est
une possibilité de ce côté-là.
Ouais, mais là ils ont vraiment besoin de quelqu'un parce que João Félix est encore un petit peu vert et puis Morata, c'est un bon joueur, mais voilà, il en faut un autre quoi devant. Donc c'est dommage parce que Thomas Lemar, et je pense que c'est un bon mec, c'est un bosseur. Mais vous savez pourquoi? Et ce qu'on m'a raconté moi de l'intérieur, pourquoi Simeone lui a fait si souvent confiance en match, c'est parce qu'il est très bon à l'entraînement. C'est-à-dire que c'est un mec qui bosse. Et ça, Simeone, il regarde beaucoup. Enfin, on sait comme le genre d'entraîneur qu'il est. Et le problème, c'est que ce qu'il voit à l'entraînement, il le voit pas en match.
C'est comme quoi la maxime selon laquelle pour être bon en match, faut être bon à l'entraînement, ça marche pas. Voilà.
Et c'est, en fait, en tout cas, c'est pas parce que t'es bon à l'entraînement que t'es bon en match. En tout cas, si t'es pas bon à l'entraînement, t'es.
C'est philosophique.
On peut tromper mille fois une personne.
tiens, Fred, avant de te quitter, un message au direct studio de Grao qui nous dit 3 Lillois en une de Marca, ça fait mal à Fred Hermel. Peut-être qu'un jour, ce sera 3 Lensois. Non, je rigole.
Attends, j'en ai déjà de Lensois.
Lensois, il en a un qui est titulaire.
Oui, il y en a un, mais bon.
Et puis j'en ai un autre, un ancien Lensois qui est remplaçant, Areola.
C'est vrai, ça.
Oh. Ah, oui, il a joué à Lens.
6 mois en prêt.
Areola, il est parisien, à la base.
Il a eu l'honneur de porter le plus beau maillot
du monde. Ah, oui, d'accord.
Pas tout à fait un coron, je crois. Mais bon.
Non, pas vraiment.
Pas vraiment. Merci, Fred. Demain soir.
Parce que Retafe, ça va être bien. Et puis il y a
le
aussi le derby
joue,
Barcelone.
Le Barça qui a 2 points d'avance sur le Real, c'est déjà important.
Et le Barça, c'est le derby de Barcelone. Enfin, l'Espagnol, brillamment qualifié en Ligue Europa, est quand même bon dernier de la Liga. Donc normalement, ça devrait quand même pas être trop compliqué. Ça va pas être un derby aussi compliqué que pour le Barça.
Le dernier de Liga est encore en vie en Europa League. Les premiers sont groupes. Le quatrième de Ligue 1 est éliminé. Troisième de Ligue 1. Merci Fred, excellent soir à toi. Simone Rovera est avec nous aussi. Simone, l'Italie est en fusion, enfin Milan en tout cas, j'ai l'impression. Alors, ce qu'on voit en images sur les réseaux, notamment sur les télés, c'est la réalité. Il y a vraiment un délire hystérique autour de Zlatan.
C'est pas un délire hystérique, mais il y a une vraie passion, un vrai plaisir pour certains supporters qui sont en train de vivre une saison très compliquée, une décennie plutôt compliquée à Milan, de voir un joueur si important, un joueur qui a fait vivre des très beaux moments dans les passés, les derniers moments où le Milan régnait sur l'Italie, était champion d'Italie, et il y avait vraiment des centaines de supporters aujourd'hui. La conférence de presse était à 10h. Moi, je suis arrivé à Casa Milan un peu avant 9h. Il y avait déjà des dizaines de supporters qui attendaient de voir Zlatan, qui après, il est passé à faire un coucou et un selfie un peu avant 11h. Donc, il y avait... C'est des jours encore des vacances scolaires. Donc, il y avait des papas avec des enfants.
Simone, c'est quand même un peu triste de voir ce club, ce grand club accueillir comme
ça. C'est plus que triste.
Un joueur de 38 quasiment quadragénaire. Quoi.
Pour moi, c'est une détresse. C'est horrible de voir un tel club. Alors, juste parenthèse, il faut savoir que Milan, c'est le seul club dans lequel Zlatan a laissé une trace affective.
Énorme.
Oui, c'est partout ailleurs.
Aussi aujourd'hui, hein.
Partout ailleurs, même dans sa ville de naissance et dans son club.
Ils n'en veulent plus.
De cœur, on n'en veut plus, on détruit sa statue tellement ce type n'a aucune valeur.
Non, je suis pas d'accord. À l'Ajax, il a laissé une bonne.
Ah.
Quand même un bon souvenir.
Oui, pas aussi marquant qu'au Milan, quand même.
Rien à voir.
Ah bah si.
Ouais.
Quand même le club qui l'a sorti.
Ouais. Oui, bah, est-ce qu'il était aimé par les supporters
partout, toujours des sentiments.
Au début, non, puis à la fin, oui.
Et Milan, c'est le seul club. Donc il y retourne à 38 ans. Quelle détresse pour un club pareil d'accueillir de cette façon un mec qui est fini.
Il y a une différence entre le club et l'équipe, Daniel. Aujourd'hui, l'équipe, c'est une équipe qui est 11e des Serie A et qui est à 14 points de la Ligue des Champions.
C'est bien ce que je dis. Ça veut dire que Milan, c'est comme quand ils accueillent les gloires à l'aéroport à Istanbul. Croire que c'est encore des bons joueurs et les mecs
gobent. T'es dur, Daniel.
Mais il est cramé, Zlatan. Il est mort, fini. Ça,
non, il est pas mort,
encore, Daniel. Ouais.
Mais vous plaisantez ou quoi?
Ça fait d'accord qu'il soit mort.
Il a mis ses buts en MLS. Il a même pas réussi à emmener l'équipe dans les
pas aujourd'hui.
La MLS, c'est pas non plus. Daniel, j'ai pas dit qu'il était à son apogée.
Il a 38 ans, mais vous vous rendez compte qu'on parle d'un mec de 38 ans.
Oui, je suis d'accord.
Mais même quand il était à Manchester, il était cramé.
Ils sont 11e de Serie A.
Mais
vas-y, Simone.
Mais c'est pas parce que t'es 11e que tu vas prendre un mec cramé. On parle
mais
de
c'est
Milan.
Un leader, c'est
qu'un club comme Milan. Mais c'est un leader de rien du tout. C'est qu'un club comme Milan soit obligé de prendre ce mec-là. C'est la preuve que le club est complètement rincé.
C'est un club qui a une énorme difficulté depuis
des années. C'est horrible qu'un tel club en arrive à là.
Il y a un passage qu'au milieu aura. Je pense qu'il y aura plusieurs clubs qui risquent de vivre ça, des passages d'une époque de propriétaires qui dépensent plein d'argent à un régime aujourd'hui où c'est pas possible. L'Inter a vécu des années très compliquées avant de revenir. C'est, pour moi, c'est une période de passage. Je souhaite que ça termine très rapidement.
Et on vend des rêves aujourd'hui, Daniel. C'est horrible. C'est comme le retour de Balotelli à Brescia. Regarde ce que t'as. C'est comme, regarde, l'Italie, franchement, me fait grande peine en matière de football, Simone. Il faut dire la vérité. La façon dont Ribéry a été accueilli à la Fiorentina comme si ça allait être. Il est fini. Il a eu une carrière fantastique, tout ce que tu veux, mais il est fini. Et à la Fiorentina, ça va se voir. Alors les mecs, ils arrivent à l'aéroport, il y a une tonne de personnes et tout. Mais quand un championnat en arrive à ça, c'est la preuve que le championnat va mal. C'est la preuve que le championnat, il est pas loin d'être cramé.
Mais Daniel, Simone.
On parlait de Zlatan en Angleterre, hein, dans un petit club, ça aurait été possible. Et le championnat, il est pas cramé.
Attends, Ibra a dit qu'il est
dans un petit club, mais là je te parle de Milan qui est.
Milan, ils sont 11e aujourd'hui, malheureusement.
Un club qui a 7 Ligues des Champions.
Oh. Dans un club moyen, on disait.
Daniel, il y a plein des équipes qui ont gagné des Ligues des Champions dans les passés, qui aujourd'hui ne peuvent plus la gagner.
Mais j'aime pas Milan, quand on fait miroiter des trucs au super.
Vas-y, Simone, vas-y, Daniel.
Ça me fait de la peine, quoi.
Alors, l'histoire de Zlatan, c'est très simple. Milan, c'est une situation, comme on a dit, très compliquée. Zlatan accepte un contrat de 6 mois. Après, on verra à la fin de 6 mois. C'est une façon de mettre un peu de pression à certains jeunes joueurs qui sont en train de gâcher leur occasion, qui sont une énorme déception sur ce début de saison. C'est une occasion de cacher un peu la misère sur les tapis. Parce que, comme on a dit, la saison, c'est très loin d'être,
ils sont à 14 points la 4e place, ouais.
Oui, c'est le seul espoir, on peut dire, c'est être à 4 points de la 7e place, donc d'aller en Ligue Europa. Pour Zlatan, c'est les derniers contrats où c'est quand même l'hypothèse de se préparer un avenir. Il a fait comprendre peut-être au Milan sûr. Dans un autre rôle.
Lui, il est bien, lui, hein, bien sûr.
Mais pour lui, c'est gagnant. Pour ouais. Milan, aujourd'hui, je vous dis une chose qui m'a vraiment frappé sur cette conférence de presse. Il y avait tout l'état-major, on peut dire, de Milan. Il y avait Boban, il y avait Maldini, il y avait les directeurs sportifs. Les questions étaient ouvertes. Pour tous, il n'y a personne qui s'est intéressé à poser une question à Boban ou Maldini sur la situation du club, sur les recrutements, sur l'avenir du projet sportif. Toutes les questions étaient pour Zlatan. Pour les clubs, c'est tellement gagnant d'avoir un joueur qui fait remplir oui, encore sans Giro. On attend 70 000 spectateurs pour Milan-Sampdoria lundi à 15h.
Et pour les médias également, forcément.
Et fait sortir un peu les Milan de cette situation de catastrophique parce que personne ne demande aux dirigeants. Comment on est arrivé là-bas? C'est parfait l'arrivée des Zlatan. Après, sportivement, je ne sais pas s'il va marquer 4 buts, 5 buts, 7 buts. Je pense que quelque chose il va faire. Parce que Milan, c'est tellement décevant cette saison que même un mec de 38 ans, qui est quand même encore fort et costaud, qui a marqué 30 buts la dernière saison en MLS, ça peut être le pire championnat du monde. Mais tu ne marques pas 30 buts si tu n'arrives pas à mettre un pied devant l'autre. Pour moi, il va être une satisfaction temporaire qui va cacher un peu la situation horrible de Milan d'aujourd'hui.
Ouais, c'est presque politique comme décision également. Merci Simone.
Merci Simone.
Ciao.
Excellente soirée à toi. Demain, bien sûr, dans l'after qui revient à partir de 23h. Merci Kevin.
Merci à vous.
Merci Daniel. Et encore une belle
dimanche
à tous. À dimanche pour Daniel. Excellente soirée à tous. L'after revient demain. Bye bye.
RMC. L'after foot.